Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sont de les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi, j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Il y a un instant sur l'expression de chapitre 2, verset 7, c'est-à-dire l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait beaucoup... On se sent beaucoup étendu sur cette expression, mais peut-être bon de rappeler que dans le paradis de Dieu, il n'y a plus qu'un seul arbre. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Désormais, c'est une récompense que le Seigneur propose à l'assemblée fidèle. Il n'y a plus de mise à l'épreuve lorsque nous sommes entrés en relation avec la gloire céleste. Cette disposition, ce temps est passé. Il n'y a plus qu'un seul arbre, l'arbre de vie. Et ceux qui peuvent disposer d'un bon dictionnaire peuvent faire la remarque suivante, c'est que l'arbre de vie, l'arbre et le bois de la croix, c'est un seul et même mot. Dans l'original, vous l'avez fait périr le pendant au bois, le bois, et l'arbre de vie, c'est un seul et même mot. Pour nous montrer, chers amis, en terminant cette petite parenthèse, que l'entrée dans le paradis éternel de Dieu est en relation avec son propre bonheur, il est lié à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons maintenant que les assemblées sont interpellées par les anciens auxquels Jean s'adresse. Il a été dit, et il convient de répéter, que les anciens sont la partie responsable de l'assemblée. En quelque sorte, et en d'autres termes, expression très voisine, fonction très rapprochée, celle d'anciens, auxquels nous avons à nous soumettre dans un jour où tout est remis en question, où l'on affirme « moi je », cette soumission aux anciens, c'est une marque de piété à laquelle le Seigneur est sensible. Et nous pouvons contribuer à rendre le service d'un ancien pénible, triste. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, bien, ce ne serait pas un avantage pour vous. Un autre frère a dit, l'absence d'anciens dans une assemblée, ou le manque de qualité chez ceux-ci, chez ceux qui occupent la fonction, c'est très important. Ce n'est pas moi qui l'ai imaginé, mais c'est la parole de Dieu d'abord, et cela a été dit par des frères d'expérience. L'absence d'anciens ou de personnes qui ont l'étoffe, mais qui craignent d'en assurer la responsabilité. C'est extrêmement grave cela. L'absence d'anciens, ou alors d'autre part ceux qui endossent ce manteau sans en avoir la capacité. Eh bien, ce sont deux dangers qui risquent de jeter le témoignage par terre. C'est un avertissement fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu. Sorte que, aujourd'hui, comme toujours, il convient que nous manifestions dans l'assemblée de Dieu les caractères, les vertus de la vie divine, qui se traduit par exemple dans la soumission aux anciens. Les jeunes gens se soumettant aux anciens parce que c'est une autorité que Dieu a établie. Et nous ne pouvons pas nous opposer à l'autorité de quelque manière que ce soit, l'autorité de Dieu, sans qu'ils s'en suivent des conséquences préjudiciables. Nous n'allons pas insister, chers amis, sur le caractère actuel dans le monde. Vous savez bien que toute autorité doit se justifier, doit se légitimer. Et on n'accepte plus une autorité établie, encore moins celle de Dieu. De sorte que c'est un danger que nous courons aujourd'hui, et nous aimons le souligner en passant. D'autre part, dans l'Épître à Smyrne, le Seigneur emploie le feu de l'épreuve. On voit l'épreuve, Satan agit, nous l'avons déjà dit, comme un agent employé par Dieu, agent persécuteur. Dieu peut se servir de Satan pour ses activités. Satan va jeter quelques-uns de vous en prison, a-t-il dit. Ce n'est pas le Seigneur qui dit, je vais jeter quelques-uns de vous en prison. Le Seigneur se sert de Satan pour l'accomplissement de ses desseins, de ses buts, en discipline. Le cas de Job est tout à fait remarquable. D'où viens-tu, Satan? Ah, moi je viens de me promener, d'aller, ça y est là. Le Seigneur lui recommande précisément son serviteur Job. C'est le Seigneur qui commence l'action à l'égard de Job, n'est pas Satan. Et c'est le Seigneur qui va terminer l'action à l'égard de Job, ce n'est pas Satan. Il va employer cet être malfaisant, dispose d'un pouvoir extraordinaire, mais il est subordonné à Dieu. Et il va employer toute sa ruse, toute sa force, toutes ses ressources. Il va mettre tout en œuvre pour écraser Job. Mais s'il m'éprouve, je vais sortir comme l'or. Jette l'argent au feu et il en sortira un vase pour l'orfèvre. Et il n'y aurait rien de plus triste qu'un croyant qui n'est jamais entré dans l'épreuve. Et pour consoler autrui à l'égard des épreuves que nous sommes appelés à rencontrer, ne faut-il pas les avoir rencontrées soi-même ? 2 Corinthiens 1 nous montre que le vase était préparé, était façonné par Dieu pour pouvoir consoler ceux qui sont dans quelque épreuve que ce soit, ayant nous-mêmes été consolés par Dieu, car Dieu console ceux qui sont abaissés. Donc, à Smyrne, nous avons le Seigneur qui agit en discipline. Tout d'abord, quel est l'élément qu'il emploie ? Quel est l'élément que le Seigneur emploie dans le cadre, dans l'éventail de la discipline qu'il a devant lui et par laquelle il nous éprouve pour notre bien ? Quel est le premier élément ? Qu'est-ce que Dieu emploie ? La verge, l'épée, ce qui contraint, ce qui blesse, ce qui est profondément difficile à supporter. Ce n'est pas la première phase de la discipline. Jindy dira, le Seigneur se sert d'abord de sa parole. Nous avons prié tout à l'heure pour que la parole de Dieu opère dans nos cœurs, et c'est par sa parole que le Seigneur veut d'abord produire du bien, amener le jugement de nous-mêmes, du mal que nous commettons, vers lequel nous sommes inclinés si facilement, nous amener à juger ce mal, à nous en séparer. Mais, Jindy ajoute, si l'eau est sans effet, parce que la parole de Dieu est présentée sous l'image d'eau qui purifie, qui lave. Mais si l'eau reste sans effet, dit-il, qu'est-ce que Dieu fait ? Eh bien, Dieu dispose du feu. Le feu de l'épreuve. Et sans doute, sa parole a été présentée à Smyrne, et elle n'a pas opéré sans doute les résultats que le Seigneur attendait d'elle, et il a dû employer l'épreuve. Mais nous retenons, chers amis, que le Seigneur éprouve, non pas pour nous affliger, pour nous écraser, mais pour notre bien. Et le Seigneur prépare alors la récompense. Il peut dire, tu as devant toi, Seigneur a tout compté, a tout mesuré, nous ne sommes pas le jouet du hasard, comme un bois jeté sur les eaux à la dérive. Le Seigneur a dit, bien, tu vas avoir une tribulation mesurée. Dans le livre de Daniel, plusieurs fois, nous avons l'expression, le temps d'épreuve est long. Mais chacun peut ajouter le mot qui manque dans cette phrase. À l'égard de l'épreuve par laquelle le peuple d'Israël va passer demain. Terrible épreuve, il n'y en a jamais eu de semblable sur la terre. Le temps d'épreuve est long. Quel est le mot qui manque, chers amis ? Le temps d'épreuve déterminé est long. Sans doute il peut être long, et pourtant il est déterminé, il est mesuré, dans son intensité et dans sa durée, sorte que nous ne sommes jamais jetés dans les eaux sans que nous ayons l'assurance que le Seigneur nous tient dans sa main. Tu vas avoir une tribulation de 10 jours, pas 9, pas 11, mais 10 jours, un ensemble mesuré lié à la responsabilité de l'homme. Et il y a eu en effet, pendant le règne de 10 empereurs, 10 grandes persécutions. Et lors du règne de ce fameux Dioclétien, le dernier, 10 années de violentes persécutions, de sorte que les deux choses sont justes, sont établies. 10 persécutions tout au long de 10 règnes, et pendant celui de Dioclétien, 10 années particulières où le feu était intense. Mais le Seigneur dit, il y aura pour cela un résultat. Nous ne le voyons pas maintenant. Nous ne l'apprécions pas maintenant. Le Seigneur ne nous a pas demandé de comprendre et de saisir toutes les raisons qu'il a d'agir comme il l'a fait. Mais comme le prophète dit, vous saurez que ce n'est pas sans raison que j'ai agi ainsi envers vous. Et demain, pour tous ceux qui souffrent, chers amis, et il y aura pour tous ceux qui souffrent, pour le Seigneur, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs manières de souffrir, mais nous parlons toujours de souffrance liée à la discipline à laquelle nous sommes soumis, pour ces croyants fidèles qui souffrent, avec le Seigneur, sous la main du Seigneur, demain, ce sera une couronne de gloire.
Je te donnerai la couronne de vie. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 12, « Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. » Dans Apocalypse 2, « Je te donnerai », c'est une promesse du Seigneur. Et il a promis cette couronne à ceux qui l'aiment. Parce qu'en fait, quelle a été, pour quelle raison, quel a été le ressort profond de ceux qui ont été fidèles dans Smyrne? Ceux qui ont refusé de renier le nom du Seigneur. Et en reniant le nom du Seigneur, ils auraient eu la vie sauve. C'était l'amour pour le Seigneur. Et si d'un côté, ils ont connu la mort, la gloire que le Seigneur, enfin la récompense que le Seigneur leur donnera, sera marquée par la vie. Et puis, aussi dans la récompense au vainqueur, le Seigneur dit, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans l'Évangile, le Seigneur dit, je vous montrerai qui c'est que vous devez craindre. Mais on ne peut pas craindre celui qui ôte la vie. C'est ce qu'il y a à craindre, c'est cette seconde mort. Et cette seconde mort qui est réservée en fait à ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Mais celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Ils ont accepté la mort de la part de leurs persécuteurs. Sur la terre, ils recevront la couronne de vie, ils n'auront point à souffrir cette seconde mort.
Un mot encore au sujet de la soumission et de l'exercice de l'autorité. L'autorité exercée, bien sûr, devant Dieu. On peut dire que ce sont deux facteurs de stabilité dans toute structure humaine, et combien plus dans l'Assemblée de Dieu, ces deux facteurs de l'autorité et de la soumission. Et dans la première épître de Pierre, l'apôtre nous montre l'importance de la soumission. Nous avons au chapitre 2, « Tout croyant doit être soumis à tout ordre humain, aux autorités qui sont au-dessus de lui. » Verset 13. Verset 18, le serviteur soumis à son maître. Verset 3, l'épouse soumise à son mari. Et enfin, nous arrivons au chapitre 5, nous voyons, verset 5, les jeunes gens soumis aux anciens. Eh bien, nous devons rechercher cet ordre divin, et qu'est-il demandé des anciens ? Bien, si la soumission est une manifestation de maturité spirituelle, comme on l'a dit, en contrepartie, n'est-ce pas, nous pouvons bien comprendre ce caractère des anciens qui, eux-mêmes, sont des modèles du troupeau. Tous, il est dit, verset 5, « Les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité ». Que l'humilité caractérise les anciens, un désir de comprendre aussi ces jeunes gens, les aimant et leur apportant les soins pastoraux nécessaires, les enseignant avec amour et avec fermeté en même temps. Voilà comment pourra être réalisé à la fois ce respect pour les frères anciens et aussi cet égal soin les uns des autres. que les anciens, que les frères qui ont ce sentiment que le Seigneur les a appelés à veiller sur le troupeau soient des modèles de piété et de spiritualité.
Je pourrais signaler combien Antipas, ici, simplement cette mention, combien elle est belle. Mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous là où Satan habite. Qu'avons-nous au chapitre 1er de ce livre de l'Apocalypse, verset 5 ? Jésus-Christ, le témoin fidèle. Voici qu'Antipas a été ainsi le reflet de son maître. Mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous. Christ, témoin fidèle, premier des morts. Nous avons là une belle image, n'est-ce pas? Elle nous fait penser à Étienne. Il nous a dit peu de choses de l'un et de l'autre, mais ils avaient Christ devant eux.
Cette troisième épître, adressée donc à Pergame, montre les manœuvres de Satan. Cette opposition que le Seigneur a permise s'est retournée contre lui. Il est à remarquer que dans l'église à Smyrne, il n'y a aucune demande qui est formulée par le Seigneur. Elle manifestait à beaucoup d'égards certainement des caractères qui honoraient le Seigneur, dans ce dévouement, cette fidélité jusqu'à la mort. Devant cet état, devant cet insuccès, Satan change de tactique, comme souvent nous le voyons changer de tactique. Et c'est la séduction. C'est l'ange de lumière, par opposition au lion rugissant qu'il était pour l'assemblée de Smyrne. C'est l'ange de lumière. Et combien cette forme sous laquelle Satan se présente est tout à fait contemporaine aussi. Ne pensons pas que si dans ces récits nous avons incontestablement une sorte de déroulement que nous avons, qui a un caractère un peu historique, incontestablement et prophétique, il y a aussi des valeurs morales et des principes moraux qui sont également actuels. Satan donc essaye de séduire, séduction qui se manifeste à l'intérieur. Il nous est dit, tu as parmi toi ceux de Balaam, ceux qui tiennent la doctrine de Balaam, au verset 14. Séduction donc à l'intérieur, un ennemi est dans la place, alors que quand il agissait comme ce lion rugissant, il était manifestement à l'extérieur, ce qui ne manque pas de produire ce soudage des membres de l'assemblée, les uns serrés contre les autres pour résister et s'encourager et se rejeter sur le Seigneur. Là, l'ennemi est dans la place. Et nous devons toujours être rendus attentifs quand l'ennemi est dans la place. C'est une manœuvre qui n'est pas dans la lumière, qui est ténébreuse dans un sens, puisqu'il y a une forme de traîtrise à avoir des ennemis dans la place, comme dans toute œuvre, dans toute action militaire de ce genre. Le deuxième caractère, c'est que manifestement, Pergame avait oublié son caractère. Était-elle la représentante de Christ, cette église que le Seigneur est obligé de stigmatiser comme étant assis et demeurant là où Satan, où est le trône de Satan? Elle avait perdu le caractère essentiel de ceux qui sont du Christ, qui doivent être des petits Christ en quelque sorte, pour reprendre ce que la parole nous signale dans le livre des Actes. Eh bien, elle avait perdu ce caractère essentiel. Elle avait perdu ce qui était essentiel aussi, c'est de rendre témoignage qu'elle était d'une autre essence que le monde qui l'entourait. Elle ne rendait plus ce témoignage essentiel à la ruine du monde en imitant le monde. Et nous savons qu'à partir du règne de Constantin, il était de bon ton d'être chrétien. Les baptêmes se produisaient par milliers, parce qu'on réservait aux chrétiens, qui étaient distingués par leur honnêteté, par leurs scrupules, probablement, par des valeurs morales, certainement. Ceci est un piège pour nous, n'est-ce pas? Dans nos activités, dans nos entreprises, on risque d'être pris en piège. À cause, cela risque d'être un piège pour nous. Justement, le monde essaye de nous élever. Car le mot Pergame veut dire en langue originale élevation. Voilà la subtilité de Satan. Il essaye d'élever. Il essaye donc en quelque sorte de faire perdre son parfum, son goût particulier aux croyants. Et donc à ceux qui les regroupent, à cette assemblée locale, à cette assemblée de Pergame. Il essaye de lui faire perdre ce goût particulier. Et le monde la protège, en attendant qu'elle règne sur le monde, ce qui est le cas de Thyatire, qui est un cas bien plus grave encore. Le monde la protège, et toutes les fois que nous acceptons d'une manière ou d'une autre la protection du monde, et nous pouvons l'accepter en nous y associant, nous pouvons l'accepter en limitant, en quelque sorte en nous coulant dans ses valeurs à lui, dans sa façon de juger et d'apprécier les choses. Toutes les fois que nous faisons ainsi, nous perdons notre statut, nous perdons en quelque sorte ce qui devrait nous caractériser toujours, cette véritable séparation, qui est une séparation des formes extérieures, d'abord du cœur. La frontière, la véritable frontière, elle passe dans le cœur. Le reste n'est qu'une conséquence. Le reste, sinon la séparation sera froide, même si elle doit se manifester dans la marche. Mais elle commence par le cœur. Et c'est ce que Pergame avait perdu. Et nous voyons combien le Seigneur le stigmatise, mais grâce au Seigneur. Dans un cas semblable, dans un cas où il y en a un comme Antipas qui lutte contre tous, car tel est le sens de son nom, il lutte contre tous pour le maintien de la vérité, contre les fausses doctrines. Ce qui veut dire qu'il y a place pour lutte, bien sûr, puisque le Seigneur le relève, ce fidèle témoin qui lutte contre tous. Eh bien, il y a place pour la victoire, il y a place pour le vainqueur. Et ceci est encourageant, comme dans chaque épître, il y a place pour le vainqueur. Et dans des temps aussi sombres, comme ceux de Pergame, et puis ensuite, bien sûr, encore davantage, celui de Thyatire, il y a place pour un vainqueur. Que cela nous encourage à, non pas à nous fier au fait d'appartenir à un milieu, d'appartenir à l'assemblée, mais de tenir le Seigneur. C'est bien là ce qui doit être le caractère dominant. Tout le reste en découlera. Tout le reste en découlera. Et l'attachement que nous aurons pour la vérité, que nous aurons pour l'Assemblée, découlera de notre attachement pour le Maître. Car il est inséparable de sa parole, il est inséparable de l'obéissance.
Le Seigneur se présente à Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On a dit que, donc, en Constantin s'est extérieurement du moins converti, il est devenu chrétien, l'Église est devenue mondaine, associée au monde, ce qui avait pris la place d'évêques, d'anciens, etc., devenait des notables dans l'Empire, et il y avait donc là peut-être les gens qui étaient contents. Quelle distance entre le moment où on était dans les catacombes et celui où maintenant on construisait de grandes églises et où on devenait quelqu'un dans ce monde. Mais le Seigneur est là, qui se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, celui qui sait distinguer, comme la parole de Dieu, qui est cette épée aiguë à deux tranchants qui va jusqu'aux divisions de l'âme et de l'esprit. Il distingue ce qui est bien et ce qui est mal dans ceux à qui il s'adresse. Et s'il va commencer, donc, non pas à dire, il ne va pas relever des choses. Quand, par exemple, plus loin à Thyatire, il dira « Je connais tes œuvres, ton amour ». Pour Pergame, il dit « Je sais où tu habites, où tu habites ». C'est, les chrétiens, les croyants sont devenus des gens qui habitent dans ce monde. Ils ont perdu le caractère d'étranger. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'a pas eu de place pour lui dans l'hôtellerie. Et quand il est parti de cette terre, au moment où il a cherché un logis pour célébrer la dernière Pâque avec ses disciples, il n'avait pas un endroit pour lui-même. Quand il dit « Où est mon logis ?» Le mot « logis », c'est le même mot qu'hôtellerie au début de sa carrière. Un étranger, celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Et là, ils habitent. Ils habitent là où Satan habite. Et bien sûr, c'est la position que l'Église a prise. Là où Satan habite, là où est le chef de ce monde, celui qui a l'autorité de ce monde. Et dans cette période-là, malgré tout, ils ont tenu ferme. Tu tiens ferme mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Parce que dans cette période, il y a eu déjà, il y en a toujours, il y en aura encore, des faux docteurs qui viendront pour attaquer la foi chrétienne, pour détruire les fondements, pour attaquer le nom du Seigneur. Et c'était la période, entre autres, de l'arianisme, où on attaquait l'humanité du Seigneur, et là, ce qu'il est en lui-même. Et il y a eu de grandes résistances, et la vérité a été maintenue. Mais ils habitaient là où Satan habite. Et il y avait là, au milieu d'eux aussi, j'ai contre toi que tu as des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. Et plus loin, il est question de la doctrine des Nicolaïtes. Dans la lettre à Éphèse, il y avait des gens que les Éphésiens n'avaient pas acceptés, ceux qui avaient les œuvres des Nicolaïtes. Ici, le mal a grandi. Les choses ont changé. Le mal est monté. Il y avait des œuvres, des gens qui agissaient à la manière des Nicolaïtes. Maintenant, c'est devenu une doctrine. C'est devenu une règle. C'est devenu quelque chose qu'on enseigne. Et quant à Balaam, quand on lit dans l'épître de Pierre, il était question là du chemin de Balaam dans l'épître de Pierre. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 15. « Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam. » Et quelle est la caractéristique de ce chemin? Alors Balaam, il a aimé le salaire d'iniquité. Il voulait prophétiser pour de l'argent. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 15. Et quelle est sa caractéristique dans ce chemin? C'est un fou. Il faut que sa bête de somme muette réprime la folie du prophète. C'est un chemin de folie, ce chemin de Balaam. Et pourtant, ils s'y sont engagés. Dans l'épître de Jude, au verset 11, « Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn, ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. » Le chemin de Caïn, dans l'épître de Jude, c'est la religion naturelle de l'homme. Caïn est arrivé, il a voulu offrir quelque chose qu'il avait fait à Dieu. C'est la religion naturelle de l'homme. Et dans l'évolution, dans la manière dont la descente du christianisme, dans ce que la chrétienté est devenue, cette religion naturelle de l'homme est mise en avant. Il faut faire pour obtenir. Et ça, c'est tout à fait, absolument pas la pensée de Dieu. L'erreur de Balaam, c'est le mal ecclésiastique, où on gagne sa vie en étant prêtre, en étant un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Balaam désirait ce salaire d'iniquité. Et puis, la contradiction de Corée. Corée s'est élevé contre Moïse et contre Aaron. C'est l'opposition à ce que Dieu a établi. L'opposition à Christ, aussi bien Christ comme sacrificateur, que comme celui qui guide le peuple. Et ici, il y avait à Pergame des gens qui avaient la doctrine de Balaam. Balaam, qui a enseigné à Balak à jeter des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Manger des choses sacrifiées aux idoles, dans l'impureté, avoir un cœur partagé, la fornication. C'était quelque chose où, on détourne les cœurs du Seigneur sous une forme religieuse. Et historiquement, dans cette période, est apparu beaucoup de choses. Le culte de Marie a commencé à ce moment-là. Et c'est une chose horrible. Quand on a parfois eu l'occasion, on perd parfois un peu de vue cela. Mais dans certains pays où l'Église catholique a beaucoup de force et où l'on voit ce culte de Marie, où on détourne sur Marie ce qui est dû à Dieu, ce qui est dû au Père, ce qui est dû au Seigneur. Mais c'est abominable cela. Tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui entraînent mon peuple, le peuple de Dieu, à la fornication et à l'impureté, pour détourner les cœurs de Dieu. Quelle chose absolument horrible. Y a-t-il un chemin pour quitter cette fosse dans laquelle va l'Église? Mais oui, repens-toi donc, la repentance. On a déjà beaucoup insisté sur la repentance. Et on réinsistera sur la repentance parce que dans chaque épître, sauf celle de Smyrne et celle de Philadelphie, il est question de repentance. Mais repens-toi donc, sinon je viens à toi promptement et je combattrai contre eux par la parole de ma bouche. Je viens à toi et je combats contre eux. Il y a déjà là une différence entre ceux qui entraînent le peuple loin de Dieu, ceux qui ont la doctrine de Balaam, ceux qui ont la doctrine des Nicolaïtes, et puis ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui au fond déjà tenaient ferme son nom, mais qui étaient en danger d'être engagés loin. Et alors il voit cela, il faut qu'il soit conscient de cela pour se repentir. Sinon je viens à toi et je combattrai contre eux par la parole de ma bouche. Et on a dit, certains commentateurs ont dit que l'islam a été un jugement de Dieu contre l'Église, et c'est vrai que dans les régions où autrefois il y avait beaucoup d'églises de chrétiens, quand vous allez en Turquie ou dans tout le Moyen-Orient, c'était vraiment une grande catastrophe. Et le Seigneur a jugé cet état de fait. Mais il y avait quand même un chemin pour le fidèle. Il y a toujours un chemin pour le fidèle. C'est la repentance.
Il est bien solennel de penser au succès que Satan a remporté en introduisant le monde dans l'assemblée. Et c'est un mal qui nous guette toujours. Et ce qui reprend du relief, c'est l'homme naturel, c'est le moi. Ce sont les opinions des hommes. Et le monde fait tout pour exalter le vieil homme. Nous le savons bien à travers tous les enseignements qu'il dispense à la jeunesse. Et l'Église est devenue quelque chose d'important aux yeux du monde. Et c'est ce qui a été sa perte. Les chrétiens disaient à l'époque, nous remplissons vos flottes et vos armées. Si nous quittions vos villes, elles seraient un désert. Alors que l'apôtre se considérait comme les balayures du monde. Quelle différence! Il n'y a pas compatibilité entre ces deux paroles. Et le monde reste toujours l'ennemi et du croyant et de l'assemblée. Ne l'oublions pas. Et si les principes mondains prévalent parmi nous, car nous ne devons pas voir que le côté historique a bien existé, eh bien ce sera la ruine d'une assemblée. Une ruine accentuée qui peut se développer à tel point que le Seigneur, par souci pour sa gloire, qu'il maintiendra toujours, soit obligé d'enlever la lampe de son lieu. Nous voyons que c'est à cette époque qu'il y a eu ce fameux concile de Nicée, où, malgré tout, la foi a triomphé. Le nom du Seigneur a été maintenu dans toute son excellence, sa divinité et son humanité pleinement reconnues devant les fausses doctrines qui prenaient de plus en plus d'ampleur, notamment sous des hommes célèbres comme Arius, qui était un homme très doué. Nous le savons bien, quand Satan choisit des faux docteurs, ce sont des hommes qui ont des qualités exceptionnelles. Et c'est ce qui a eu lieu, et le Seigneur a suscité des hommes fidèles qui ont maintenu néanmoins la vérité. À propos d'Antipas, il est tout seul, remarquons-le bien. Et il semble, à travers les expressions, l'expression que le Seigneur emploie, que Pergame elle-même soit co-responsable de cette mort. Parce qu'il est dit, les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous. Il était là au milieu du peuple de Dieu, dans l'assemblée, et puis lui seul a été le martyr. Il a préféré mourir que de faire des concessions à la vérité. Et aujourd'hui, nous préférons faire des concessions à la vérité et sauver notre réputation. Et cela peut nous parler. Ce qui comptait pour Antipas, en effet, qui était contre tous, un contre tous, on aurait pu dire, mais c'est l'infime minorité, il n'aura jamais le dessus. Mais le Seigneur relève ce nom et il parle à chacun de nos cœurs. Un homme qui a été fidèle jusqu'à la mort. Ceci est extrêmement précieux pour ceux qui ont à cœur d'être fidèles. Ils ne vont pas rechercher avant tout le nombre. Le nombre ne fait jamais la qualité des témoins. Ce qui importe, c'est la qualité du témoin, sa fidélité, fidèle jusqu'à la mort. Ce n'est pas une fidélité par un coup, mais d'une façon continue. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Un cœur qui est gardé pour lui de toute influence mondaine, mais aussi de toute influence charnelle. Car il se pourrait qu'un chrétien ne soit pas mondain, mais cultive secrètement le moi, l'idole la plus constante. Si elle n'est pas abattue un jour, eh bien elle fera des dégâts, non seulement dans la vie de l'intéressé, mais aussi dans l'influence qu'il exercera vis-à-vis de ses frères et sœurs. Nous avons besoin de nous pénétrer de ses pensées. Et le Seigneur, un jour, donnera ses appréciations sur chacune de nos vies. Ne l'oublions pas non plus. Si nous avons eu à cœur la fidélité d'un Antipas, le Seigneur le montrera en son jour. Nous ne pouvons pas le tromper. Il lit dans le cœur. Et là, il se présente ici à Pergame avec cette épée aiguë à deux tranchants. Cette parole qui communique la vie est aussi celle qui exerce un juste jugement. Et nous avons besoin d'être toujours placés dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu, ou dans ce sanctuaire où Dieu désire nous placer. La balance est fidèle, précise et juste. Les poids sont justes et c'est là que nous sommes pesés. Il est dit dans les Proverbes que Dieu pèse les esprits et les cœurs. Eh bien, c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui, pour la vie des assemblées. Seigneur, sait dans quelle mesure nous tolérons parmi nous la mondanité qui s'affiche de plus en plus, qui est un véritable fléau pour lequel nous manquons de surveillance sans aucun doute. Dire la vérité dans un esprit de grâce et d'humilité, tout d'abord en montrant l'exemple, en étant des modèles du troupeau. Et plus que jamais, nous sommes des anormaux, on pourrait dire, qui allons à contre-courant si nous avons à cœur la fidélité au Seigneur. Il y a l'opprobre du Christ que peut porter déjà un enfant à l'école. Si ses parents ont à cœur de l'élever dans la crainte du Seigneur, sous les enseignements de la parole de Dieu, et ses petits, même peut-être s'ils n'ont pas encore la vie de Dieu, sont exposés vis-à-vis du monde à l'opprobre. Par contre, si nous voulons éliminer tout opprobre, eh bien, nous allons dans le courant très large, très puissant, qui va où ? À la perte de l'âme. Et combien d'enfants de parents chrétiens se sont éloignés ainsi, étant emportés par le flot très puissant de ce monde. La grâce de Dieu peut les ramener, bien sûr, et opérer en réponse aux prières des saints qui ont à cœur le bien de l'assemblée, le bien des âmes. Mais le Seigneur est ici, et se présente ici comme ayant cette épée aiguë à deux tranchants. Et nous voyons que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, eh bien, cette parole est aussi qualifiée comme étant une des ressources qui nous est nécessaire pour le temps de notre passage sur la terre. La parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Ce que personne ne peut faire, la parole le fait. Elle sera délimitée dans notre âme entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Seule la parole peut opérer un tel travail. C'est pourquoi elle est extrêmement utile pour nous sonder, pour nous amener à nous juger, à juger même les motifs de nos cœurs. Et toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Cette question de la mondanité est la porte ouverte à toutes les fausses doctrines qui, plus que jamais, pullulent dans le monde chrétien où nous sommes. Et si nous tolérons ce mal dans une assemblée, eh bien, il peut s'en suivre des conséquences telles qu'elles ne s'en relèvent pas. Dieu veuille susciter parmi nous des antipasses qui ne redoutent pas l'opprobre du Christ, qui sont, à l'exemple du Maître, témoins fidèles et véritables, témoins qui s'engagent dans leur cœur pour leur Seigneur. Comme le disait un frère, à nous l'obéissance, à Dieu les conséquences. Voilà le chemin de la foi. Il est tracé par notre modèle. Ne fixons pas tant nos regards sur nos frères et nos sœurs, qui sont souvent sujets de critiques, mais fixons nos regards sur le Seigneur. Lui est le juste parfait. Dans toutes ses voies, il a glorifié son Père. Il n'a rien fait qui ne se dût faire, c'est le témoignage du brigand. Et il pouvait dire lui-même en Jean 8, « Je fais toujours les choses qui lui plaisent ». Pourquoi cela? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Eh bien, Antipas nous donne un exemple de combien important pour chacun de nous. Et c'est ainsi que la prospérité d'une assemblée peut être assurée. Est-ce que nous aimons le Seigneur plus que les frères encore? Et pourtant, nous devons aimer les frères. Mais il y a toujours des priorités dans la vie de la foi. Et c'est le Seigneur qui l'emporte de beaucoup sur toutes les opinions que pourraient avoir les êtres les plus chers que nous avons. D'où l'extrême importance de nous attacher à lui de tout notre cœur. Et quand nous connaissons la vérité, eh bien, sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de raisonnement, nous découvrirons ce qui vient du méchant, ce qui est l'erreur. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les fausses pièces de monnaie pour connaître les bonnes. Non, il suffit de connaître les bonnes pièces. Et il en est de même dans la vie de la foi. Si nous aimons le Seigneur, si nous vivons près de lui, si sa parole fait autorité sur nos cœurs, eh bien, nous fuirons l'ennemi de nos âmes, qui vient toujours avec une part de vérité et beaucoup d'erreurs. Et même, on a dit quelquefois, au départ, l'erreur se contente d'une toute petite place. Mais quand elle est là, elle fera des dégâts. Et c'est ce qui est arrivé à Pergame, l'église monde, comme on l'a appelée. Elle a toléré des faux docteurs et ils ont accentuer la ruine. Sans doute, il est bien consolant de considérer la récompense du vainqueur. Ce vainqueur, celui qui a écouté ce que l'Esprit dit aux assemblées, le Seigneur lui décerne une récompense combien précieuse. Je lui donnerai de la manne cachée. La manne qui était la nourriture de l'Israélite traversant le désert, donnée par Dieu. Elle venait du ciel et était déposée sur la rosée et il suffisait de la recueillir chaque matin pour la consommer. Et c'était la nourriture de Dieu pendant 40 ans de traversée dans le désert. Et nous savons que, selon les instructions de l'Éternel, un homère de manne, c'est-à-dire la portion quotidienne d'un Israélite, devait être placé dans la cruche d'or dans le sanctuaire. Et cela nous parle de l'humanité glorifiée du Seigneur, dont nous pouvons nous occuper dans notre cœur et dans notre esprit. Nourriture excellente qui est là toujours devant Dieu, son humanité, ses perfections, lui qui est glorifié maintenant dans le sanctuaire, manne cachée, mais que la foi connaît parfaitement et dont elle jouira éternellement. Je lui donnerai un caillou blanc. Le caillou blanc permettait d'élire celui que on avait choisi lors de la vie administrative d'une cité. On inscrivait son nom sur ce caillou blanc et c'était lui qui était choisi. Eh bien, c'est la marque de l'approbation du Seigneur pour celui qui aura été fidèle à Pergame, qui ne se sera pas laissé contaminer par les fausses doctrines et par le mal moral, car les deux vont toujours ensemble, mal moral et doctrinal. Et combien c'est un exercice aussi qui doit peser sur nos cœurs aujourd'hui. Alors, nous voyons ce caillou blanc de l'approbation du Seigneur, et puis un nouveau nom, le nouveau nom, une relation spéciale avec Christ qui est connue, c'est Jésus, ce nouveau nom, celui que nous avons aimé sur la terre et que nous contemplerons pendant l'éternité. Un point encore concernant ces victoires, ces vainqueurs. Il y a là quelque chose qui peut nous arrêter en un sens par rapport au combat d'Éphésiens 6. Combat d'Éphésiens 6, c'est pour jouir de nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, de toute bénédiction. Le ciel est à nous, pour ainsi dire, dès maintenant, pour la foi. Et nous ne pouvons pas nous emparer d'une possession céleste de notre Canaan sans ces combats, puisque l'ennemi est encore dans le ciel, nous le savons bien, avec toutes les principautés, les autorités, les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Eh bien, le combattant de la foi a livré cette lutte. Par contre, ici, il y a plutôt ce point très important, c'est que Dieu ne se contente pas de la simple profession chrétienne sans la vie. C'est aussi une question douloureuse, celle-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup et plus que jamais des professants chrétiens qui n'ont pas la vie de Dieu, peut-être même parmi nous. Cela ne serait pas si étonnant que cela. Eh bien, Dieu ne se contente pas de cela, parce que tous ceux qui sont des vainqueurs, là, eh bien, au fond, c'est ceux qui possèdent la vie qui est en Christ et ils en jouiront pleinement. Donc ce sont tous les vrais croyants qui ont la vie de Dieu dans un sens. Parce que nous voyons à Éphèse, celui qui vaincra, il va manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Eh bien cet arbre de vie va être la portion de chacun de nous. Donc il n'y a que celui qui a la vie de Dieu qui peut être ce vainqueur. Et pour distinguer les choses par rapport à la simple profession chrétienne sans la vie, c'est un extrême danger aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants, de parents chrétiens en particulier, sont élevés dans l'ambiance d'un foyer chrétien et l'ambiance de l'assemblée. Et s'il n'y a pas eu de décision personnelle, d'acceptation de la ruine totale et la jouissance de la vie qui est en Christ, qui leur est communiquée par la foi en l'œuvre de Christ, eh bien, ce sont de vrais professants. Souvent, ils ont été baptisés, pas toujours, mais en tout cas, ils ont la responsabilité de ceux qui ont été introduits dans la maison chrétienne. Et ceux-là ne pourront pas remporter de victoire au sens de ces récompenses qui sont ici devant nous, ce qui est vrai aussi pour ne pas souffrir de la seconde mort. Il n'y a que ceux qui auront la vie de Dieu, qui n'auront pas à affronter les tourments éternels, le feu inextinguible. Y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui, ayant beaucoup de connaissances sur ce qu'est l'Évangile, ne l'aurait pas encore accepté véritablement dans son cœur? Et comment cela se traduit-il? Eh bien, il y a la vie divine qui est communiquée, il y a un changement total parce qu'une nouvelle nature, la nature divine, a été implantée et des fruits la font reconnaître. Sinon, s'il n'y avait que le simple témoignage par la parole, eh bien, ça ne pourrait pas être suffisant. Il faut un travail intérieur profond dans la conscience et dans le cœur, et ce passage aussi pour une telle âme, par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Donc nous voyons la seconde mort mentionnée 4 fois dans ce livre de l'Apocalypse. Eh bien, ils n'auront pas à en souffrir s'ils ont la vie qui est en Christ. De même aussi, nous voyons dans le cas de Sardes, je n'effacerai point son nom du livre de vie. En tant que simples professants, ils ont écrit leur nom sur ce livre, mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, eh bien ce nom sera effacé. C'est tout à fait solennel, et cela nous interpelle à nous, vrais chrétiens, qui avons des contacts avec des chrétiens de profession et qui n'ont pas la vie de Dieu. Ils ont été baptisés, ils sont chrétiens, distingués de tous les païens et de toutes les religions que les hommes ont instituées, mais s'il n'y a pas l'étincelle de la vie divine, eh bien, il n'y a que cette seconde mort qui les attend. C'est tout à fait solennel. Dieu veut des réalités. Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. C'est vrai pour un individu, c'est vrai pour une assemblée. Que Dieu nous garde de l'influence du monde si marquante aujourd'hui, dans la tenue, dans la manière de vivre, dans l'esprit qui nous pénètre, la société des loisirs, quel danger elle représente pour les chrétiens qui ne cessent de se déplacer ici et là pour la satisfaction de quoi, finalement? Eh bien, de l'homme naturel. Et tout ceci neutralise la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Combien nous avons besoin de veiller et de prendre garde. Dieu veut toujours notre bien et il nous dit toujours la vérité pour que notre cœur soit véritablement engagé à la suite du Maître qui a été rejeté de ce monde, crucifié, mais que Dieu a ressuscité et exalté à sa droite. Et le christianisme que nous sommes appelés à vivre, eh bien, c'est ce que le Seigneur enseigne à ses disciples à travers sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de Jean, au verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Voilà. Quelle est la frontière? La croix de Jésus. Voilà la frontière. Et Dieu veuille que nous nous arrêtions devant cette croix, avec tout ce qu'elle représente pour nous. Dans le monde, mais pas du monde. Voilà la pensée profonde du Seigneur pour les siens, qu'il laisse là pour être des témoins pour lui. Ceux qui, à l'exemple d'Antipas, eh bien, ont arrêté dans leur cœur de ne pas se souiller par tout ce que le monde leur offre aujourd'hui à profusion.
Paul sur Antipas, il a dit dans la parole que celui qui est fidèle dans ce qui est petit est fidèle aussi dans ce qui sera grand. Et c'est vrai pour tous ceux qui sont ici et qui appartiennent au Seigneur. Il est aussi dit, c'est l'apôtre qui le dit, ce qui est requis d'un administrateur, c'est qu'il soit fidèle. Nous voyons toute l'importance qu'il y a à être fidèle dans ce que le Seigneur nous a confié. C'est un titre que la parole ne donne pas facilement, des hommes fidèles. Nous en trouvons 7 dans la parole. Il y a le premier Timothée dans l'Épître aux Corinthiens, il y a Onésime, il y a Épaphras, il y a Tychique qui est cité 2 fois. Tychique est cité 2 fois, le seul qui est cité 2 fois dans la parole, homme toujours en voyage. Il y a aussi Sylvain dans l'Épître de Pierre. Il y en a peut-être encore un autre. Et alors, pour finir, nous avons Antipas dans notre lecture. Mais nous avons celui qui est cité 3 fois, et qui le surpasse tous. C'est le Seigneur Jésus lui-même. C'était un homme, et de lui il est dit dans Apocalypse 1, au verset 5, Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né des morts. Au chapitre 3 et au verset 14, il est dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, il est ajouté quelque chose. Aucun homme n'a pu porter ce titre-là. Il est non seulement fidèle, mais il est véritable. Il est véritable maintenant. Et au chapitre 19 de l'Apocalypse et au verset 11, nous avons encore le Seigneur qui est cité 3e fois comme le témoin fidèle. Et là, il est dans sa gloire. C'est un homme dans sa gloire. Il apparaît avec splendeur aux yeux du monde entier. Il va exercer le jugement. Alors que Théodée dormait, au verset 11e, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable. Donc voilà, des hommes sont cités une fois comme étant fidèles, Tichic est cité deux fois comme étant fidèle, le Seigneur trois fois, parce qu'en toute chose, il faut qu'il tienne la première place. Et le Seigneur est ainsi cité trois fois, et deux fois comme étant le véritable.
On veut revenir un instant sur ce qui nous a interpellé tout à l'heure à l'égard des séductions du monde, en particulier à l'égard de ceux qui ont quelques dispositions pour jouer un rôle utile et recherché dans le monde. Le Seigneur n'a pas dit que c'était une chose difficile d'aimer le monde et de l'aimer lui-même. Et c'est une constatation que chacun a dû faire. C'est une chose non pas difficile, mais impossible. Ou bien nous allons aimer un maître et rejeter l'autre. Et nous ne donnons pas d'exemple, chers amis, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais nous pensons qu'il était utile d'attirer notre attention sur cet aspect des choses. Et nous citons l'exemple, il y en aurait beaucoup d'autres, et un exemple récent d'un frère qui nous a visités, même dans notre pays, et qui n'a jamais voulu sortir d'une position inférieure dans l'administration. Il était facteur des postes. Il aurait pu devenir rédacteur, devenir commis principal et monter dans la hiérarchie. Il a toujours refusé, souhaitant remplir le rôle le plus inférieur qui soit. Il se rappelait de ce qu'un cher serviteur de Dieu, un homme pourtant d'une grande capacité, William Kelly, disait au siècle dernier. Il vaudrait beaucoup mieux n'être qu'un balayeur de rue que de vendre son christianisme pratique pour s'identifier, pour se conduire comme le monde. C'est une phrase très lourde de conséquences. Et ce frère, chers amis, dont nous parlons, a toujours souhaité demeurer un simple facteur. Mais nous verrons demain, au jour des récompenses, comment le Seigneur a honoré ce frère. Déjà sur la terre, Dieu lui avait donné un don remarquable pour l'encouragement, l'édification de l'Assemblée. Et cet homme intelligent, et en qui le monde aurait souhaité trouver un collaborateur à la mesure de ses capacités, a souhaité demeurer dans l'humilité, à la suite de son maître. L'homme humble et débonnaire, et qui a dit « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde ». Nous voulons citer un exemple d'eux, l'exemple de Lot. Parents d'Abraham ont été formés et élevés à la même école, mais l'un est resté sur la montagne, jouissant de la communion avec Dieu, l'autre s'est embarrassé des choses du monde. Et pour finir, chers amis, où le trouve-t-on? De descente en culbute, les unes après les autres, on le trouve assis à la porte de Sodome. Et il ne serait pas sage, il ne serait pas opportun de parler de la fin ténébreuse de Lot et de sa famille. Et la rançon du monde, elle se paye cher, mes amis. Il y a des hommes pourtant qui ont joué, on pourrait nous dire, mais il y a des hommes pourtant qui étaient de véritables chrétiens et qui ont joué un rôle important dans la société. C'est tout à fait vrai. Mais souvenons-nous d'un homme comme Lincoln, par exemple, président des États-Unis, contemporain de Livingstone, deux hommes remarquables dont Dieu s'est servi, par exemple, pour abolir, ou en tout cas pour atténuer dans une très large mesure, l'esclavage, le commerce de la chair humaine. Mais bornons-nous à Lincoln, comment est-il mort? Il est mort assassiné. Il a rempli un rôle social de la plus haute valeur. Mais il était en dehors de la place dans laquelle un chrétien doit se trouver. Et par conséquent, il a dû connaître ce qui est lié aux choses du monde. La mort de cet homme, elle est lamentable. Sans doute, il a rempli un rôle pour la société, un rôle considérable. Mais ce n'est pas la place d'un chrétien. Seigneur a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, ils nous sont donnés pour notre instruction. Vous avez un homme, par exemple, au temps de Jérémie, lorsque tout va s'écrouler. Cet homme, il est instruit sans doute, il est intelligent, il a des ressources, et aurait voulu faire quelque chose pour le bien du peuple. Il était sans doute à même de manœuvrer et de manipuler des personnes pour essayer d'enrayer la chute vertigineuse du peuple vers le jugement qu'il attendait. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit par la bouche de Jérémie ? Tu veux chercher de grandes choses, Baruch ? Ne les cherche pas. Ce n'est plus le moment de s'encombrer de richesses, de biens, de profits du monde, de rechercher le profit avec le monde. Mais je vais te donner quelque chose qui est un sujet d'envie pour beaucoup d'âmes. Je vais te donner à toi, lorsque le sang va couler à Jérusalem et en Judée, je vais te donner à toi ta vie pour butin. Donc, sur le plan de l'Ancien Testament, vous voyez l'équilibre, la relation que l'on peut faire. Ce Baruch, Dieu va lui donner de connaître une fin digne de lui. Sa vie épargnée, ce qu'il y a de plus précieux, en laissant de côté tout ce qui pouvait le mettre en valeur. Encore un détail que nous voulons citer, quand le général de Gaulle en France a établi son pouvoir, ou a reçu le pouvoir, donc, on peut entrer dans les détails, nous n'avons pas la capacité, d'ailleurs en 1959, deux hommes, chers amis, de l'Église chrétienne ont été choisis pour être les piliers, les hommes de confiance de cet homme qui avait donc la charge épouvantable de redresser un pays qui était livré au désordre. Il a choisi deux protestants. On va pas citer les noms, mais l'un était un homme très connu dans l'Église protestante et l'autre était le fils du chef de l'Église huguenote en France. Donc cet homme intelligent, il a compris que deux collaborateurs tirés de ce milieu seraient des hommes de confiance, des hommes fidèles. Mais, chers amis, est-ce la place, nous répétons, de quelqu'un qui suit le maître à la suite de Paul ? Lui, il peut dire, le monde, qu'est-ce que c'est pour moi ? Qu'est-ce qu'elle a trait, le monde peut-il avoir pour moi ? Le monde, c'est un organisme crucifié. Et moi, pour le monde, étant donné la position que j'occupe vis-à-vis de lui, ils disent de moi, c'est un homme crucifié. Le monde m'est crucifié et moi je suis crucifié au monde. L'autre, il habitait dans Sodome. Je sais où tu habites. Et Jacob, ce pieux vieillard, à la fin de sa vie, après beaucoup d'épreuves, comment va-t-il parler ? Oh, j'ai habité dans le pays de Canaan. Non, non, ce n'est pas ça qu'il dit. Les jours de mon séjournement. Ma vie sur la terre n'était qu'un séjournement. Mais j'ai saisi des réalités éternelles. La cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le créateur. Alors nous retenons, chers amis, en fin de compte, cette expression, repens-toi donc. Il y a toujours une possibilité de revenir, faire demi-tour, repens-toi donc. Et à l'égard de ceux avec lesquels tu t'es associé, avec lesquels tu t'es associé, que tu as laissé faire, il faut te repentir, il faut te séparer d'eux. Et moi je vais venir contre eux avec l'épée de ma bouche, on en a beaucoup parlé.
Récompense qui est proposée au vainqueur de Pergame, il y a ce caillou blanc dont on a déjà parlé, et dans le livre des Actes, au chapitre 26, on a un verset, un mot, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est simplement pour indiquer un peu quant au caillou blanc. Au chapitre 26 du livre des Actes, au verset 10, « Quand on les faisait mourir, j'y donnais de ma voix, ou j'y donnais mon caillou. J'étais d'accord. » C'était l'approbation pour faire mourir ces hommes. Je lui donnerai un caillou blanc, c'est mon approbation. Et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Ce nouveau nom écrit un secret entre le Seigneur et celui qui le reçoit. D'un côté, son approbation, de l'autre côté, sa communion. Une communion intime. Mais certainement, c'est la récompense qu'ils connaîtront, ceux qui ont vaincu. Mais dans un sens, est-ce que ce ne sera pas aussi quelque chose qu'ils auront un peu connu dans leur vie? Se présenter devant Dieu de telle manière qu'il nous approuve, avoir cette approbation du Seigneur dans le cœur, réaliser sa communion. Mais pour le faire, eh bien, il fallait qu'ils aient des caractères qui soient l'inverse de ceux qui étaient vus dans Pergame. Ils avaient reçu aussi une nourriture, la manne cachée. L'inverse de ce qui était devenu Pergame, qui était devenu quelque chose de public, quelque chose de caché. Et un secret aussi entre le Seigneur et eux, qui était quelque chose de caché. Et c'était dans l'intimité avec le Seigneur, dans l'intimité dans laquelle ils avaient vécu, c'est dans cette intimité-là, une intimité encore plus grande, qu'ils pourront vivre ensuite, une fois qu'ils auront vaincu.
La manne cachée, on l'a dit tout à l'heure, c'était cette manne qui était mise dans la cruche d'or, dans le lieu très saint. Eh bien, bien sûr, nous nourrir de Christ dans son humanité, c'est la manne. Mais la manne cachée, cela va plus loin. C'est la récompense qui sera la nôtre, mais qui peut être déjà la nôtre, de jouir de Christ comme de la nourriture de Dieu lui-même dans le ciel. C'est cela la manne cachée. Christ dans le ciel qui fait les délices du cœur de Dieu. Eh bien, ce sera notre récompense si nous désirons nous aussi déjà réaliser ces caractères, en effet, de Pergame.
Je vais simplement citer deux versets de la première épître de Jean qui me paraissent tout particulièrement s'appliquer au cas du vainqueur à Pergame. C'est des versets que nous connaissons bien, Jean 2, 14. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. » Voilà le véritable secret de la victoire. Elle n'est pas dans un déploiement d'efforts personnels, elle n'est pas dans une vigilance particulière quant à sa marche, elle est d'abord, et avant tout, bien sûr que tout le reste en découle, l'attachement au Seigneur et surtout que la parole demeure en vous. Et la suite, n'aimez pas le monde, c'était bien le caractère de Pergame, donc celui qui vainquait, non seulement il avait la vie, mais il n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ce qu'essaye de faire Balaam, c'est de nous faire aimer, peut-être pas le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Et c'est ainsi que le monde idolâtre dans lequel se trouvait le christianisme dans ses premières années a adopté les coutumes idolâtres. Et on est frappé quand on lit quelques livres, l'histoire de l'Église ou l'Assemblée en particulier donne quelques éclairages là-dessus, mais il y a d'autres écrits en langue anglaise qui peuvent permettre d'aller encore un peu plus loin. Nous voyons bien combien on trouve dans les habitudes, dans les façons de faire, dans la religiosité, combien on trouve là de manifestations qui ne sont en fait que des transpositions, quelquefois habiles, toujours séductrices, du monde idolâtre dans lequel ces chrétiens vivaient. Et c'est bien ce rejet des choses qui sont dans le monde, des habitudes du monde. Et pour nous, c'est peut-être pas des morceaux de bois qui nous feront tomber, mais combien facilement nous nous prosternerions devant les dieux de ce monde, n'est-ce pas? Les dieux de ce monde, le sport, on pourrait les multiplier. Il n'y a peut-être rien de mal en soi, sauf si on en fait son dieu, si on en fait une idole. Elles sont cachées souvent dans les replis de nos cœurs. Et donc cette instruction, remarquons-le, n'est pas adressée, cette recommandation qui est adressée donc au verset 17 d'Apocalypse 2, n'est pas adressée seulement à Pergame. Nous ne pouvons pas la repousser du doux, la repousser de la main, en pensant que nous pouvons échapper à cela. Qu'est-il dit, comme pour toutes les recommandations, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à Pergame? Non, aux assemblées. Nous sommes donc tous concernés.
Je voudrais simplement dire un mot, c'est qu'il y a un troisième verset dans la première épître de Jean, si, qui est important, c'est le dernier verset de la première épître de Jean. « Enfants, gardez-vous des idoles. » Et on a bien dit qu'une idole, c'est tout ce qui prend la place de Christ dans nos cœurs. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qui prend la place de Christ dans nos cœurs? Et j'aimerais ajouter que, bien sûr, il y avait le temps de Pergame. Il y avait ce mélange de christianisme et de paganisme. Aujourd'hui, de nouveau, cela revient. Et pour ceux qui ont un petit peu connaissance de cette nouvelle religion qui se répand, de la doctrine du nouvel âge, n'est-ce pas, de cette religion nouvelle, c'est un mélange de christianisme et de paganisme. Et c'est, on introduit l'adoration de ces formes d'idoles que sont les astres, etc. Cela se répand. Et nous devons y prendre garde parce que nos jeunes gens doivent réfléchir à cet aspect des choses afin de ne pas se laisser prendre au piège. Et puis, bien sûr, réfléchissons aussi aux influences des médias dans les foyers lorsque il y a tant de médias maintenant dans les foyers chrétiens. À chacun de prendre ses responsabilités. Est-ce que ce n'est pas là aussi l'introduction des idoles et cette fornication, c'est-à-dire de relations d'infidélité avec le monde? Car ici, idolâtrie et fornication sont bien sûr à prendre dans le sens moral.
Oh.